Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1.
Europe 1. 10h, 11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, Médiapolis n'est pas Hertz, Médiapolis n'est pas du tout en faillite, mais présent comme tous les samedis matins. Votre émission sur les rapports entre médias et politique avec Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Bonjour Claude Maluret, bonjour Justine. Bonjour. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Vous avez oublié Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, Jean-Luc Arblat qui l'a réalisé. Mais vous avez mentionné Justine qui m'accompagne dans ce studio.
Oui, Claude pardon Maluret. À Capucine que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Voilà.
Bonjour Claude Maluret.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous avoir parce que vous êtes un sénateur un peu particulier puisque, je le disais dans le teasing de l'émission, l'hebdomadaire Le Point parle de votre train d'enfer de sénateur. Le rêve pour un sénateur qu'on dise qu'il a un train d'enfer. Tout ça, en vérité, tous ces regards portés vers vous, au départ, à cause d'une formule dans un de vos discours, d'une expression, d'un trait d'humour. Vous avez dit dans votre discours au Sénat il y a une dizaine de jours, vous avez parlé du professeur Mélenchon de la faculté de médecine de La Havane. Et alors ça a fait tilt, ça a été repris partout sur les réseaux sociaux et maintenant tout le monde se tourne vers vous. Vous saviez en prononçant cette phrase qu'elle allait avoir autant d'écho ?
Non, absolument pas. D'ailleurs, je m'étonne, j'espère que l'écho est peut-être dû au reste des 7 minutes du discours, parce que s'il devait être lu qu'à ça, ce serait peut-être un petit peu, pas enthousiasmant, mais c'est vrai que quand on cite le nom de Mélenchon, ça fait du buzz.
Non, vous avez raison, il est aussi dû au reste, parce que par ailleurs, vous avez fait preuve à la fois d'éloquence, et sur le fond, c'est un discours d'assez haut niveau intellectuel, ce qui n'est pas toujours le cas chez tous vos collègues. Allez, maintenant...
Oui, moi je peux témoigner qu'à chaque fois qu'il y a débat au Sénat et que je sais que M. Maluret va parler, j'attends son discours parce que ça n'est pas la première fois qu'il a des petites phrases succulentes qui entourent un discours qui mérite d'être écouté. Ça, je témoigne.
Vous voyez comme ça commence bien Claude Maluret. Catherine Ney est une de vos fans. Allez, Canteloup.
Angela Merkel et Emmanuel Macron ont donc annoncé hier un plan de relance européen à 500 milliards d'euros. Bonjour Angela Merkel.
C'est la fête. C'est la fête. Je fais tourner les serviettes. Ah oui, c'est mes bas de contention. Oui, oui. Allez, c'est la fête du slip. On lâche la thune. On fait péter la grosse tunasse. La grosse moula. 500 milliards. Allez-y. C'est avec vous, c'est cadeau. C'est offert par la maison.
Alors, la première question que tout le monde se pose, ce plan de relance, il va falloir le rembourser après. Et qui va payer?
Qui va payer?
Bah oui.
Il va payer. Mais je m'en fous, justement.
Alors,
je m'en tape le gras du cuisson avec une pâte d'alligator femelle.
Oh la pauvre belle.
Je vais vous dire, je n'ai plus qu'un an à tirer. Et après, je quitte le pouvoir. Et je vous laisse vous t'émerder. Mais vous m'avez saoulé pendant 20 ans à me réclamer du pognon, à pleurnicher. Ouais, Angela, tu es trop dur, t'es trop dur. Eh bien, maintenant, je vous laisse avec une ardoise de 500 milliards. Vous l'avez foulé, vous l'avez. Allez, on fait la fête.
C'était Nicolas Canteloup, mardi. C'est vraiment formidable quand il imite Angela Merkel. C'est mon tape et tout. Ça n'arrête pas d'en rigoler. Mais le sujet est très sérieux, Catherine Ney. Et vous vous êtes penchée dessus.
Oui, parce que c'est vrai que l'Allemagne accepte ce qu'elle refusait depuis 20 ans, cette mutualisation des dettes des États européens. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Madame Merkel est-elle une convertie? Pas du tout, elle n'a qu'une religion. C'est ce qui est bon pour l'Allemagne. En l'occurrence, là, que l'Europe se porte mieux, ça sera bon pour l'Allemagne. Et c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs au Bundestag avec beaucoup de franchise. Donc elle accepte que la Commission s'endette de 500 milliards pour redistribuer aux pays qui en ont le plus besoin. Voilà. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et alors, maintenant que la décision est prise, que le plan a été proposé avec Emmanuel Macron, qui affiche leur entente, bon, ben là, c'est un pas, et un pas est franchi, mais ça ne veut pas dire comment ça va aboutir, parce qu'il faut maintenant la réponse de la Commission, il faut que les pays récalcitrants arrivent à un compromis, s'ils y arrivent. Après, il y a le vote dans les parlements nationaux. Enfin, tout ça, c'est un long chemin. Mais pour Mme Merkel, c'est quand même un signal, parce qu'elle va présider l'Union européenne à partir du 1er juillet. Elle est en fin de mandat de son quatrième mandat, elle ne se représentera pas. Donc elle va marquer sa trace européenne rien qu'en ayant levé cet obstacle du tabou de la mutualisation des dettes, et même elle s'est payée le luxe de citer Jacques Delors, dont elle maintenant veut appliquer les leçons. Donc c'est formidable, et surtout en ce moment, elle est la femme la plus populaire dans son pays, et donc elle est la reine de l'Europe d'une certaine manière.
Claude Maluret, vous avez été député européen, vous êtes partisan de la construction européenne, ça vous a réjouit cette nouvelle ?
C'est une nouvelle importante, réjouissante, il faut analyser parce qu'il y a quand même un certain nombre de bémols, mais c'est une nouvelle importante parce que c'est la première fois, et c'est une date qui marquera pour l'Europe, c'est la première fois que l'Europe se dote d'une politique économique avec des transferts budgétaires d'un pays à l'autre, ça multiplie par 4 d'un seul coup le budget européen, c'est une étape importante. Maintenant, je pense qu'il faut quand même pas penser, et c'est ce que disait Catherine Ney, Angela Merkel ait changé d'avis. Simplement, elle s'est rendue compte, comme tout le monde, mais notamment comme tout le monde en Allemagne, qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui pour le Nord que d'aider le Sud, parce que sinon les spreads italiens, les spreads de taux des emprunts italiens vont exploser, et que l'Europe explose aussi. Donc évidemment, ce ne serait pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Voilà la raison principale, elle est raisonnée, mais c'est une très bonne chose. Maintenant, le deuxième problème qui va se poser à moyen terme, c'est qu'avec ces 500 milliards, avec les centaines de milliards de chaque État, c'est avec les 1000 milliards garantis par la BCE, on est en train de faire du keynésianisme sous stéroïdes. Ce qui n'est pas du tout dans la tradition allemande, et que ça prendra fin un jour ou l'autre. Aujourd'hui, le coronavirus, la crise économique entraînée par ce virus nécessite cela, parce que sinon l'Europe explose et les récessions seront majeures dans tous les pays européens. Mais le problème, c'est de savoir jusqu'à quand ça dure et comment on en sort. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra bien payer les dettes. Moi, je vois bien...
Mais vous parlez, pardon Claude Maluret, vous parlez dans une certaine mesure, Catherine Ney, sauf qu'elle a fait le bémol à la fin, et vous, encore plus, vous parlez comme si cette décision était prise. Pour l'instant, c'est une proposition franco-allemande. Est-ce que vous pensez que si l'unanimité n'est pas atteinte, ce qui est très possible, puisqu'il faut l'unanimité des gouvernements et des parlements, est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, il serait concevable et souhaitable que ce soit fait uniquement par ceux qui sont partants ?
Pourquoi pas, mais ça poserait sans doute plus de problèmes, que ce serait sans doute plus difficile d'adopter des changements de règles plutôt que d'essayer d'obtenir l'unanimité. Il est vrai qu'aujourd'hui, en définitive, il y a 4 pays qui sont contre, et on sait bien, et là c'est un autre bémol qu'il faut mettre, que c'est pas exactement la proposition Macron-Merkel qui va être adoptée, puisque déjà la Commission s'est aperçue de l'opposition de certains et qu'elle est en train de modifier le projet. Néanmoins, il y a quand même le Parlement européen était manifestement très très en faveur, même en faveur d'aller plus loin, et je pense que ce sera une force importante. Je pense qu'on arrivera, bien entendu, ça sera pas exactement, c'est comme d'habitude en Europe, ce sera pas exactement ce qu'on a, il va falloir faire des compromis, c'est pas exactement ce qu'on a dit au début, mais en définitive, l'Europe n'a progressé que, regardez l'histoire européenne, elle n'a progressé que lors des crises, à chaque crise qui était censée la mettre par terre et qui aurait pu la mettre par terre, Elle a trouvé les moyens, elle s'est servie de la crise pour rebondir. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Nietzsche disait une phrase qui était dans le contexte de l'époque très différent, mais Nietzsche disait « L'Europe ne se construira qu'au bord du tombeau ». Il parlait des guerres, bien entendu. Mais parfois, quand on voit des crises comme celles qui ont secoué l'Europe, on peut se dire en définitive, chaque fois qu'elle a été au bord du tombeau, l'Europe a su rebondir et c'est là qu'elle a fait les plus grands pas en avant.
C'est pour ça que beaucoup de gens aiment Claude Malhuret, parce qu'il cite Nietzsche. Il n'y a pas tellement de parlementaires qui citent Nietzsche. Friedrich Nietzsche, avouez-le. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas s'il va citer Kierkegaard ou Kant, parce qu'on va parler du second tour des municipales dans un instant.
Médiapolis continue jusqu'à 11h avec Olivier Duhamel et Catherine Ney, mais avec également Claude Malhuret, sénateur de l'Allier et président du groupe Les Indépendants au Sénat.
Et ancien maire de Vichy et très attaché à son terroir, comment ça se passe chez vous le Covid-19, Claude Malhuret ?
Eh bien, on fait partie des zones vertes et on a toujours fait partie des zones vertes. L'épidémie a peu touché notre département. Et par conséquent, voilà, c'est beaucoup moins grave qu'en Île-de-France ou que dans le Grand Est. Mais ça n'empêche pas, et j'ai été très agréablement surpris, ça n'empêche pas que, aussi bien ici qu'à Paris, puisque je suis à Paris en milieu de semaine pour le Sénat continue à siéger, que tout le monde, que les Français, et je pense qu'on ne l'aurait pas parié avant, respectent le confinement, respectent les gestes barrières, sont disciplinés. Il y a toujours quelques idiots qui, évidemment, font le contraire, mais très franchement, je trouve qu'ils ont respecté le confinement aussi bien que des Coréens ou des Allemands, ce qui est évidemment un compliment.
Bon, alors venons-en. Pardon, allez-y Catherine.
Vous êtes médecin, est-ce que vous jugez que la crise a été bien gérée par le gouvernement ?
Le pays, manifestement, n'était pas préparé. Le pays n'était pas préparé sur les masques. Le pays n'était pas sur les tests. C'est un peu plus compliqué puisque le virus n'existant pas, les tests ont dû être inventés. L'organisation centralisée de la France, qui dans certains cas peut être un avantage, a été du fait d'une bureaucratie qui a été vraiment souvent un obstacle. Tout cela est c'est arrivé dans un pays qui n'était pas préparé. Alors, pour moi, l'erreur du gouvernement n'est pas une erreur de gestion, parce que quand on n'a pas de masque, on ne peut pas les inventer. L'erreur a été une erreur de communication. J'insiste pas là-dessus, tout le monde le sait, c'est le principal reproche qui est fait au gouvernement. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, dans une moyenne européenne, mieux que l'Italie, l'Espagne, et beaucoup mieux que l'Angleterre, avec des théories fumeuses de Johnson, et moins bien que l'Allemagne. Après tout, c'est peut-être un petit peu aussi une image de l'Europe aujourd'hui.
Très bien. Alors, le Premier ministre a annoncé hier que le second tour des élections municipales, sauf remontée en flèche de la pandémie, aurait lieu le 28 juin. Certains des politiques contestent cette décision. Par exemple, écoutez deux d'entre eux, Jean-Christophe Lagarde et Alexis Corbière.
Je ne vois pas comment on fait une campagne électorale digne de ce nom pour des élections municipales de proximité, alors qu'en réalité, les électeurs ne pourront pas rencontrer leurs candidats et les candidats pas parler réellement à leurs électeurs.
Dans la mesure où il a été répété qu'on ne pouvait pas tenir une campagne électorale, alors il nous semble impossible de pouvoir faire un scrutin le 28 juin. Sans quoi, finalement, c'est un peu la prime aux élus sortants.
Donc Jean-Christophe Lagarde, UDI, et Alexis Corbière, La France Insoumise, c'est frappant cette convergence. Et si vous me permettez, mais si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous allez me contredire frontalement. Je trouve cet argument assez curieux, parce que les campagnes électorales entre deux tours d'élections municipales, elles durent en vérité 3 jours. Parce que le lundi et le mardi, il y a les négociations pour les fusions de listes, les désistements, etc., ou les maintiens. Et puis, il reste le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et le samedi, on ne peut pas faire campagne. Donc, 3 jours, allez, 4 maximum. Et là, il va y avoir un mois. Alors, même avec plus de restrictions, c'est quand même une campagne possible. Vous êtes d'accord ou pas, Claude Malhuret ?
Je pense que la décision prise par le gouvernement était la seule possible. Vous savez, comme sénateur, je vois des maires tous les jours. L'immense majorité des maires aujourd'hui souhaitent qu'on en finisse avec cet épisode. L'immense majorité des responsables politiques, vous en avez cité deux, mais ce sont les deux seuls qui aujourd'hui sont opposés. Mercredi dernier à Matignon, l'immense majorité des responsables des partis ont donné leur accord et leur approbation au gouvernement, certains avec quelques réticences, mais tous sont d'accord. On ne peut pas faire autrement, et pour deux raisons d'ailleurs. La première est sanitaire. On nous dit est-ce que les gens vont avoir peur, est-ce que l'épidémie est terminée ou pas. Il y a deux solutions pour faire le deuxième tour, c'est juin ou janvier. Or, quelle va être l'évolution de l'épidémie dans les semaines et les mois qui viennent? La réponse technique, précise et définitive à cette question, c'est Dieu seul le sait. Il est possible qu'elle revienne avant le mois de juin, et dans ces conditions, le gouvernement s'est donné la possibilité de suspendre. Il est possible aussi qu'elle revienne en raison d'une saisonnalité en hiver, et par conséquent, on serait obligé d'annuler les élections qui d'ailleurs seront à deux tours si on doit attendre jusqu'en janvier. Donc, comme on ne sait pas, je pense actuellement l'épidémie est manifestement en régression, il n'y avait pas d'autre solution. Et là, surtout, le problème, c'est celui de la gestion des mairies et des intercommunalités. Aujourd'hui, il y a des tas de mairies qui ne peuvent pas, qui gèrent les affaires courantes, et toutes les intercommunalités qui aujourd'hui, toutes les communautés d'agglos, toutes les communautés de communes, ne sont pas au complet et ne peuvent que gérer les affaires courantes, ne peuvent pas lancer les marchés publics contribueront à la reprise.
J'entends bien,
et donc
mais
tout le monde
si
attend avec impatience qu'on en termine.
J'entends bien, mais j'ai quand même une question précise parce que notre émission s'appelle Médiapolis et on parle de médias politiques. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie difficulté ou pas de faire campagne en respectant la distanciation physique? Et comme vous ne vous attendiez pas à cette question, je vous laisse une ou deux minutes pour y réfléchir avec une petite pause.
Jusqu'à 11h, c'est Médiapolis sur Europe 1. Ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney reçoivent le sénateur de l'Allier, Claude Malhuret, qui est aussi président du groupe Les Indépendants au Sénat.
Et oui, vous êtes président du groupe Les Indépendants au Sénat, le plus petit groupe du Sénat. Qu'est-ce que c'est d'être président d'un petit groupe? Est-ce que c'est plaisant parce que parfois on fait la décision? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on est entre copains? Il y a une voiture, j'imagine, pour le président de groupe, et puis quelques avantages.
Alors non, il n'y a pas de voiture pour le président de groupe, mais...
C'est fini ça, Olivier, là.
Bien entendu, il y a des avantages et des inconvénients. Pour peser, il faut être plus vous êtes gros, plus vous pesez, bien entendu. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages à être un petit groupe. La première, c'est que quand vous faites des réunions de groupe, c'est-à-dire toutes les semaines, vous pouvez discuter, tout le monde prend la parole. Quand vous êtes 140, il y a quelques ténors qui prennent la parole et les autres écoutent. C'est une ambiance dans un groupe, une façon de construire les positions du groupe qui est beaucoup plus agréable. La deuxième chose qui est importante, c'est que si vous pesez moins à l'échelon collectif, en revanche, tous vos sénateurs pèsent beaucoup plus parce que leurs interventions en commission, dans l'hémicycle, sont beaucoup plus nombreuses. D'ailleurs, le problème d'un petit groupe, c'est surtout de trouver sur chaque débat, puisqu'il y en a beaucoup, un sénateur qui soit capable d'être présent, de le faire, d'être compétent sur le sujet. Et leur visibilité et leur façon d'intervenir individuelle est beaucoup plus importante. Donc voilà, il y a des avantages. D'accord. Et des inconvénients. Et mais l'ambiance dans un petit groupe est très 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 agréable. D'ailleurs, on est le plus petit groupe. On est à peu près le même nombre que trois autres groupes, ouais, au Sénat. On est une quinzaine, les autres sont une vingtaine.
Et vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité?
Nous sommes dans l'opposition. Enfin non, nous sommes dans la majorité sénatoriale, donc dans la majorité de Gérard Larcher, oui. Et nous avons une position constructive par rapport au gouvernement, c'est-à-dire que notre position, comme vous le voyez, notre groupe s'appelle Les Indépendants, oui. Et par conséquent, quand on veut dire non, on dit non. Quand on veut dire oui, on dit oui. On n'est pas des godillots et on n'est pas des opposants systématiques.
Vous êtes des centristes d'opposition.
Est-ce que vous voulez que je revienne sur la question? Pardon.
Vous êtes des centristes d'opposition, quoi.
On est...
Ça vous plaît pas, centriste?
Non, je sais pas ce que je veux dire, bien entendu.
Non,
que
non, c'est la question que vous posez.
On est bien entendu qu'on est au centre de l'échiquier politique, bien entendu qu'on est dans le contexte démocrate populiste, on est démocrate. Maintenant, Dans ce groupe, il y a des gens qui venaient de différents partis politiques auparavant, qui venaient de LR, qui venaient des centristes, qui venaient des radicaux. Donc voilà, je préfère le mot indépendant, mais bien entendu qu'on est loin des extrêmes et que le mot de centriste me fait pas. Ne me fait pas peur.
Disons que votre temps est quand même moins vif que celui de Bruno Retailleau, le président du groupe LR. On peut dire ça.
Oui, c'est bien ce que quand je dis constructif, c'est parce que en fait c'est simple. Notre position,
c'est par rapport aux démolisseurs, c'est ça.
Oui, le quinquennat de Sarkozy a été gâché par la crise de 2008 et malheureusement pour lui, le quinquennat de Hollande a été gâché, je dirais, sans être méchant, par lui-même. Et au bout de 10 ans,
la France est dans un... de balancer quelques vacheries sur votre petit ton doux comme ça.
Je pense que c'est devenu un lieu commun quand même, plus qu'une vacherie. Et donc la France est dans un état aujourd'hui où un troisième quinquennat gâché, et on le voit bien par comparaison à différents pays européens, serait une catastrophe. Et c'est préoccupant aujourd'hui. Donc on va pas faire le pari de s'opposer au gouvernement pour le seul plaisir de le faire tomber en 2022 et de le faire remplacer par encore un quatrième. Voilà, on n'est pas dans cette perspective-là purement politicienne. On est dans la perspective de voter les lois qui redressent le pays et de ne pas voter quand elles ne nous paraissent pas aller dans le bon sens.
Et à l'Assemblée nationale, pendant ce temps-là, il y a un autre petit groupe qui vient de naître, puisqu'il y a une partie des membres d'En Marche, pas beaucoup, mais quelques-uns qui ont rejoint, quelques non-inscrits, pour faire un nouveau groupe. Est-ce que ça change fondamentalement les équilibres politiques? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est une péripétie sans suite? Un certain nombre des auditeurs se posent la question. Eh bien, Catherine Ney et Claude Maluret vont répondre dans 2 minutes.
Maluret, sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants au Sénat, et votre invité ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Et maintenant, le suspense est terminé. Vous allez savoir ce que Catherine Ney et Claude Maluret pensent de la création d'un nouveau groupe après scission pour partie de LREM des Macroniens. Catherine, vous commencez.
Rien. Ils sont ni dans la majorité ni dans l'opposition. Ils sont 17, dont parmi eux, il paraît qu'il y en a 6 qui pourraient être chefs. Donc vous voyez, ça risque d'être vite un sac de souris où on va se... Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Alors on dit, mais la majorité perd, le groupe En Marche a perdu la majorité. Ça fait une voix de moins. Il n'a rien perdu du tout avec le MoDem à côté. Enfin, c'est rien. Pour moi, c'est rien.
Rien. Parfait. C'est clair, c'est rien. Pour vous, Claude Maluret?
J'ai tendance à penser aussi que c'est un non-événement. D'abord, en matière de communication, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment ils ont imaginé, au moment où le coronavirus écrase le reste de l'actualité internationale comme nationale, créer un groupe à ce moment-là, c'est la certitude, même si vous en parlez aujourd'hui, mais enfin c'est la quasi-certitude que ça passe dans l'indifférence générale. Deuxièmement, le problème, un des problèmes, c'est que c'est inéluctable. Quand vous avez une majorité aussi importante, aussi déterminante à l'Assemblée, eh bien l'opposition n'est plus à l'extérieur, l'opposition est à l'intérieur. Moi, j'ai vécu ça en 86, lorsque le UDF-RPR avait la même majorité qu'aujourd'hui la REM. Eh bien très rapidement, c'est à l'intérieur que les bisbilles se passent.
D'accord.
Et par conséquent, c'est peut-être plus simple comme ça.
D'accord.
George Bush, si je peux vous citer une formule un petit peu triviale, j'espère que vous m'excuserez.
Allez-y.
Une formule de George Bush père, un peu triviale, mais les Américains ont l'art de synthétiser les choses d'une façon cash. Dans ce genre de circonstances, George Bush père disait, puisque de toute façon ils vont pisser sur la tente, autant qu'ils pissent de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, parce que ça fera moins de dégâts.
Alors il l'a piqué, George Bush. Excusez-moi, mais il l'a piqué, hein, parce que ça remonte à... Ça remonte à MacArthur. Je préfère MacArthur qui dans la tente plutôt que qui pisse dehors. Donc il l'a.
Ah, je pensais que l'auteur était non, George Bush, mais j'étais pas là du temps de MacArthur.
Ah, non, mais moi non plus, j'étais pas là. Exagérez pas, Claude Maluret.
Non, mais c'est pas ce que je dis.
Non. Bon, alors je récapitule la création de ce petit groupe écologie. Comment c'est encore écologie, démocratie. Et solidarité.
Ni dans la majorité, ni dans l'opposition.
Pour Catherine Ney, c'est rien. Pour Claude Maluret, c'est rien. Et si moi je dis aussi que c'est rien, ça fera trois fois rien. Mais De Vos disait, avec trois fois rien, on a déjà quelque chose. Voilà pour le nouveau groupe. Alors là, j'espère que vous n'allez pas me dire que c'est rien quand même. Le gouvernement qui s'est fait contredire par le Conseil d'État dans l'interdiction des messes, le Conseil d'État a considéré que c'était une atteinte fondamentale à la liberté de culte. Et écoutez les réactions dans la matinale de Mathieu Belayard, des responsables religieux, Mgr Philippe Marsay, évêque auxiliaire de Paris, Chaim Korsia, le grand rabbin de France, et Tarek Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux. C'était mardi matin sur Europe 1.
Je suis heureux qu'on nous prenne comme des adultes sérieux, capables de faire des rassemblements sans prendre de risques sanitaires. Et toutes les mesures de sécurité sont prêtes. Elles étaient prêtes pour le 3 juin, elles seront prêtes pour jeudi prochain.
Il y a cet impératif de protection. On a arrêté complètement l'économie du pays pendant près de 2 mois pour protéger la vie. Il n'est pas question de se précipiter pour ouvrir les choses sans prendre toutes les précautions possibles, on les prendra. Il n'est pas question qu'il y ait des clusters dans les cultes, en tout cas dans les synagogues.
Dans la prière musulmane, il y a beaucoup de promiscuité. Dans les mosquées, les rangées des gens se mettent les uns à côté des autres. Ça ne pourra plus être possible immédiatement. Il y aura une métamorphose des prières collectives.
Claude Malhuret, j'imagine que la décision du Conseil d'État vous a réjoui.
Oui, je pense que elle vous a réjoui aussi. C'est pas au constitutionnaliste que vous êtes que j'apprendrai que, en définitive, elle est parfaitement logique. Ce que le Conseil d'État, la jurisprudence constante du Conseil d'État, c'est de dire tout ce qui est permanent et généralisé, ça ne passe pas. Donc, en fait, ils ont mis un jugement conforme à leur jurisprudence. Et d'ailleurs, le sujet ne pose pas a posé problème avec quelques groupes religieux assez minoritaires, mais les représentants des différentes religions étaient en fait et sont toujours en discussion tout à fait cordiale avec le gouvernement sur ce sujet. Donc c'est quand même une décision qui désavoue le décret qui avait été pris par le gouvernement et qui l'oblige à en reprendre un qui vient d'être publié d'ailleurs hier ou aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne décision. Maintenant, on peut comprendre que le gouvernement ait eu un peu la main lourde, même s'il a eu tort, parce que, rappelez-vous, le principal foyer de l'épidémie en France, celui qui a largement contribué à la dissémination, c'est le rassemblement de 2000 évangélistes à Mulhouse, que tout le monde se rappelle. Donc c'est un rassemblement religieux, massif, et par conséquent, le fait d'éviter que ça se reproduise, on peut penser que le gouvernement y était attentif. Mais bien sûr, au moment où on ouvre, où on déconfine, et où dans beaucoup de circonstances on peut se rassembler, il n'y a pas de raison, bien entendu, de faire une exception pour les lieux de culte.
Catherine Ney.
Moi, oui, j'ai rien à ajouter. Là,
bon, rien à ajouter, parfait. Eh bien, si vous n'avez rien à ajouter, moi non plus, à part que, bien entendu, je m'interroge encore, même si Claude Malhuret vous a donné un élément d'explication de pourquoi le gouvernement a commis cette erreur. Alors, il y a l'explication évangéliste, l'explication cluster, probablement aussi le fait qu'en Italie, Giuseppe Conte ait pris la même position au grand dam du Vatican, et que donc il a dû se dire, si même en Italie ils n'autorisent pas, pourquoi on autoriserait nous? Je pense que ça a pu jouer aussi. Alors, ça m'amène à, si vous permettez, Claude Malhuret, à vous poser une question que je trouve d'une certaine importance sur les conséquences politiques globales de cette pandémie. Parce que d'aucuns disent qu'elle ne va pas profiter aux populistes, et notamment elle ne va pas profiter aux populistes parce qu'ils la gèrent n'importe comment, parce que Trump l'a gérée n'importe comment aux États-Unis et parce que Bolsonaro l'a gérée n'importe comment aussi au Brésil. Et j'aimerais vraiment, et les auditeurs aussi, connaître votre point de vue là-dessus, juste après une brève pause.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney, pour Mediapolis. Et ce 23 mai, vous êtes accompagnés par Claude Malhuret, sénateur de l'Allier et président du groupe Les Indépendants au Sénat.
Des gens meurent du coronavirus, je m'en fiche. Ah, c'est pas ça, mais presque, écoutez.
Des gens meurent? Ah oui? Désolé, je suis désolé, mais il y aura beaucoup plus de gens qui mourront si l'économie continue d'être détruite par ces mesures de confinement.
C'est hallucinant, hein. C'est donc le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui critique les gouverneurs prenant des mesures de confinement et appelle à la reprise partout. Et pendant ce temps-là, l'épidémie s'aggrave terriblement au Brésil. Donc, Claude Malhuret, je vous avais annoncé la question. Est-ce que vous pensez que la mauvaise gestion des populistes dans cette affaire va leur nuire ou qu'au contraire, en soi, une pandémie de ce type, avec le repli sur soi, la volonté de fermer les frontières, la haine de ce qui vient d'ailleurs, ne peut que leur profiter?
Ce qui me paraît le plus étonnant, c'est qu'il y ait des gens qui peuvent penser cette thèse que les régimes autoritaires sont gagnants dans cette crise parce qu'ils ont été les plus efficaces. On voit partout sur les réseaux sociaux. C'est la farce la plus inimaginable. Je pensais pas qu'on pourrait en arriver là. D'abord, d'où vient l'épidémie? La cause de la maladie, c'est le virus. Mais la cause du drame, c'est le régime chinois, non seulement populiste, autoritaire, mais même totalitaire, qui l'a caché pendant un mois et qui a permis qu'elle se dissémine partout. Bel exemple de gestion. Ensuite, ce régime nous explique qu'il y a 4500 morts, ce qui est une pure manipulation, un pur mensonge. Tout le monde sait qu'on a commandé un beau jour de février ou de janvier dans la ville de Wuhan 50 000, qu'on a livré 50 000 urnes funéraires, dont personne dans ce régime nous explique des chiffres de l'épidémie complètement bidons.
Pardon, je vous interromps juste sur ce point. Vous dites tout le monde sait, nous savons nous sur les urnes funéraires, mais à votre connaissance, est-ce que les Chinois le savent?
Bien entendu que non. Ceux de Wuhan qui l'ont vu arriver la nuit, les quelques-uns, et d'ailleurs ceux qui l'ont mis sur les réseaux sociaux doivent déjà l'avoir payé, mais bien entendu que les Chinois ne le savent pas.
Donc ils peuvent mentir, c'est ça le problème. C'est pas seulement qu'ils mentent, c'est qu'ils peuvent le faire.
Ils ne font que mentir depuis le début. On apprendra dans un certain nombre d'années le nombre de morts de la même façon qu'on a appris 30 ans plus tard les 40 millions de morts du grand bond en avant. On l'a appris 30 ans plus tard à la mort de Mao. Les Chinois n'ont jamais su qu'il y avait 40 millions de morts du grand bond en avant. Et nous l'avons su très tard.
C'est intéressant parce que nous, en démocratie, on accuse le gouvernement d'avoir menti sur les masques. Il n'a pas exactement menti. Il a donné une fausse raison. C'est inutile au lieu de dire on n'en a pas. Mais il n'a pas dit on en a alors qu'on n'en avait pas. Donc on ne peut pas mentir en démocratie. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas mentir quand vous faites même un semi-mensonge ou une semi-omission. Déjà, on vous tombe dessus très vite comme quoi vous avez menti. Alors que dans les dictatures et a fortiori les régimes totalitaires, on peut.
Et on devrait être très fier justement de ne pas pouvoir mentir. Donc c'est le premier argument qui me fait ne pas comprendre comment on peut dire que ces régimes sont plus efficaces. Quant aux régimes populistes occidentaux, entre Trump, qui restera dans l'histoire comme le président du Make the Virus Great Again, et entre Bolsonaro qui ne protège pas ses habitants des bidonvilles avec une hécatombe, entre Johnson qui a été sauvé de par miracle de ses théories fumeuses qui lui ont fait attraper le coronavirus, comment peut-on dire aujourd'hui que les leaders populistes ont été les plus efficaces? Bien entendu non.
Ok, pendant ce temps-là, le président de la République, lui, est-ce qu'il se prend pour De Gaulle? En tout cas, il rend hommage sur hommage à De Gaulle. On y vient dans une minute ou deux.
De 10h à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ils reçoivent ce samedi Claude Malhuret, sénateur de l'Allier et président du groupe Les Indépendants au Sénat.
De Gaulle, Macron, trait d'union, l'esprit français. Écoutez.
J'ai tenu à ce que l'année de Gaulle soit lancée ici, sur les terres qui virent renaître l'esprit français de résistance. L'esprit français, qui toujours permet au peuple de France de se redresser et de reprendre la grande marche de son destin. L'esprit français, qui jamais ne se résout à la défaite, qui choisit la conquête et embrasse l'audace.
Catherine Ney, vous aimez que notre président rende hommage au fondateur de la Ve République et à l'homme de la France libre? ou ça vous agace?
Là, c'est un must. Tout le monde va le célébrer l'année de Gaulle. Mais ce qui m'amuse chez le président Macron, c'est qu'il se cherche, il s'épuise à se trouver un modèle historique. Alors quand il fait la fête de sa victoire au Louvre et son arrivée à pied, on songe à Mitterrand dans les dédales du Panthéon. Puis après, la façon d'apostropher les gens dans la rue, c'est un peu le style Sarkozy. Puis Chirac en Israël, ou alors lui qui parle si bien anglais avec un accent anglais, eh bien il parlait anglais comme Chirac, vous savez, vous vous souvenez quand il avait dit, vous voulez que je prenne mon avion et que je m'en aille dehors.
You want me to take my plane? You want me to take my plane?
Voilà, ben c'est ça. Et puis donc, et De Gaulle aujourd'hui, bon, c'est... Pourquoi pas? Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est ce ton un peu doucereux, voilà, avec laquelle il parle comme ça, des grands hommes, enfin... Mais enfin, c'est pas un péché, quoi. Il se cherche.
Et Claude Maluret, qui n'est, dans le fond, ni macronien, ni gaullien?
Oui, les institutions de la Ve République font que tous les présidents sont obligés à un moment ou à un autre d'être comparés ou d'avoir une façon d'agir déterminée par cette monarchie républicaine qui ressemble un petit peu à celle de De Gaulle. Après tout, Mitterrand était le premier, après avoir publié le coup d'État permanent et être le principal critique de De Gaulle, le jour où il a été élu président de la République, il s'est comporté en monarque républicain assez proche de De Gaulle. Donc il y a toujours cette référence. En plus, on est au 50e anniversaire de sa mort, au 130e anniversaire de sa naissance, donc les circonstances s'y prête. Voilà, donc qu'Emmanuel Macron se voit dans cette lignée, même si les deux personnages sont effectivement extrêmement différents, que leur poids dans l'histoire, celui de Macron, on le verra plus tard, mais celui de l'homme du 10 juin 40, c'est évidemment une exception parmi les très rares exceptions de grands chefs d'État français. En définitive, c'est un petit peu compréhensible, mais il y a une différence majeure, peut-être. C'est que Malraux disait à l'époque, je me rappelle plus comment s'appelait le parti de Gaulle, c'était l'UNR ou enfin bref le Rassemblement gaulliste.
L'UNR.
Malraux disait l'UNR.
C'est le métro.
C'est le métro à 6h du soir. Oui. Les adhérents de l'UNR, c'est le métro à 6h du soir. Fait. Ça voulait dire tous les Français se reconnaissent dans ce gaullisme. Et De Gaulle disait entre nous les communistes, il n'y a rien. L'AREM, la République en marche, ça n'est pas le métro à 6h du soir. C'est une autre phase de l'histoire,
oui,
c'est le
pas.
Problème
oui.
Des démocrates et des populistes.
Absolument.
Et par conséquent, l'une des raisons des difficultés de Macron, c'est que, justement que En Marche n'est pas le métro à 6h du soir, et ça change complètement la donne politique.
Même pas le métro en période de déconfinement avec distanciation sociale, si vous me permettez. Allez, puisque vous parlez des références historiques, il y en a une autre, Alice Baudry, directrice du marketing et de la communication à l'Institut Montaigne, qui surveille les réseaux sociaux et les médias internationaux pour nous, a trouvé une chose intéressante. La stratégie de Trump pour lutter contre le virus reprend 20 ans après celle de l'administration Bush. C'est ce qu'écrit Stephen Simon cette semaine pour le magazine américain bimestriel Foreign Policy, spécialisé en politique étrangère. Dans les années qui ont précédé le 11 septembre, des responsables avaient mis en garde contre une nouvelle forme de guerre justifiée par la religion qui proviendrait d'acteurs non étatiques. Pourtant, l'administration Bush a continué de se focaliser sur l'Irak. Les services de renseignement américains se sont battus pour attirer l'attention lors des briefings présidentiels quotidiens, en vain. Et beaucoup ont même perdu leur emploi. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus. L'administration Trump a ignoré les avertissements des experts pendant des années. Même dans les mois qui ont précédé la pandémie, ils ont ignoré les renseignements concernant la menace et la meilleure façon de se préparer. Exactement comme Bush, Trump a renvoyé des experts et les a remplacés par des agents politiques sans expérience pertinente. Bush a annoncé sa mission accomplie dès la chute de Saddam Hussein en 2003. Cette année, Trump a déclaré que le coronavirus était battu avant même qu'il ne se soit vraiment propagé. Ce mois-ci, Bush a appelé à un sentiment d'unité au milieu de la pandémie de coronavirus. Bien que son message contraste fortement avec la gestion et la réponse hostile de Trump, il sonne également creux, écrit Simon. Et voilà comment s'est envoyé sur les ratés de la gestion de la pandémie aux États-Unis par Trump. Un commentaire bref, Claude Maluret, avant que nous nous quittions en chanson.
Oui, enfin, il faut bien sûr que l'erreur de Bush était sans doute une des très grandes erreurs de politique internationale de ces dernières années. L'erreur de Trump sera évidemment ce raté de la gestion de la crise. Il faut peut-être, même si on n'a pas envie de le faire, il faut peut-être être un petit peu tolérant vis-à-vis de ces deux hommes d'État. Vous savez, tous les 4-5 ans, la CIA publie son rapport sur les principaux, d'ailleurs vous y avez fait allusion, sur les principaux dangers dans le monde. Et là, c'est une ouverture de parapluie. Je veux dire, elle prévoit tout, la pandémie, le terrorisme, l'accident nucléaire, le conflit. Et le chef de l'État, il doit là-dedans choisir ce sur quoi, sans pouvoir bien
entendu prévoir l'avenir. Elle est sûre d'avoir raison.
Ce sur quoi. Donc voilà, c'est ça, toujours l'ouverture de parapluie. Alors faut pas les accuser, mais on peut dire faut peut-être les comprendre. La différence entre Bush et Trump, c'est plutôt le caractère. Bush était entêté et forcé l'option c'est l'Irak qui paiera jusqu'au bout. Et Trump change d'avis toutes les 5 minutes, ou plutôt tous les deux tweets. C'est vraiment là la différence dans la gestion d'une crise.
Ah, donc je disais, on va terminer par une grande tolérance à l'égard de Trump, de Claude Maluret, mais elle est quand même immédiatement assortie du bémol du type qui change d'avis toutes les 2 minutes. Eh bien nous ne changeons pas d'avis sur le fait que quand on peut, on choisit une chanson qui rend hommage à un grand disparu, Michel Piccoli, lundi, immense acteur, entre autres devant la caméra de Claude Sautet, notamment, tout le monde le sait, en 1970, dans Les choses de la vie avec Romy Schneider, et vous écoutez quelques mesures de la musique de la chanson d'Hélène, écrite et composée par Philippe Sarr. Et puis, pour évoquer le quatuor de Vincent François Paul et les autres, dont fit partie aussi Piccoli avec Serge Reggiani, et bien quelques mesures du Déserteur de Boris Vian, qui avait été magnifiquement chanté par Reggiani, et que Piccoli reprend presque en parole.
Et je dirais aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Sur les paroles de Boris Vian dans la célèbre chanson Le Déserteur. Merci à Claude Maluret, merci Jean-Luc Arblade qui a réalisé l'émission et préparé ses musiques finales, à Capucine Patouillet, notre assistante, à Justine Holman qui m'a accompagné, et bien sûr à vous Catherine Ney. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur europe1.fr, et on se retrouve tous samedi prochain. Puis salut à Mariotte maintenant.